Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas voulu vous faire peur, hein. C'est le micro qui était puissamment élevé. Merci à toute l'équipe de Louange, hein, pour ces moments bénis qu'on a vécu déjà. C'est tellement important de disposer, de préparer nos cœurs favorablement avant d'ouvrir la parole de Dieu et d'écouter le conseil de Dieu. Amen. Merci au Seigneur d'être présent par son esprit. Et merci à vous d'être là présents, aussi nombreux ce matin, pour venir vous nourrir. Vous êtes des affamés, hein? Bon, ça tombe bien, je vais tenter de vous nourrir. Le journal Les Échos, certains connaissent le journal Les Échos? Voilà, c'est pas Les Échos dans la savane, c'est un journal économique titré en début d'année 2012 « Crise mondiale ». 2012, année de guérison, point d'interrogation. Et le journaliste dit, il est des paroles d'espoir qui résonnent comme des cris d'alarme. Ainsi, lorsque Christine Lagarde, présidente du FMI, parle de 2012 comme l'année de guérison, n'annonce-t-elle pas en fait une crise mondiale? Les spécialistes et les experts parlent d'une crise mondiale de l'emploi. Le chômage n'a jamais été aussi et autant élevé dans toutes les nations, particulièrement aux États-Unis. Et ce chômage représente un obstacle majeur à la reprise économique. La presse titrait hier, le G8, ces grands chefs d'État qui sont réunis en ce moment, le G8 au chevet de l'Europe en crise. Une crise financière, une crise économique, une crise politique. Il n'y a pas un jour où on ne nous parle pas de la Grèce et des conséquences que cela peut avoir pour toute la zone euro. En Espagne, une crise sociale avec toutes les conséquences que ça peut avoir, le chômage et la dégradation, bien sûr, des dettes de la récession, sur une dégradation du système de santé, où de plus en plus il va être difficile de bien se soigner. Certains pays connaissent déjà cela, et bien sûr certains viennent en France, mais on s'aperçoit aussi que dans notre pays, eh bien, il y a des enveloppes budgétaires, bien sûr, qui se réduisent, des conditions d'accès aux soins qui sont moins bonnes qu'avant. Une crise écologique, saviez-vous que 84% des Français sondés la semaine dernière sont préoccupés par l'écologie? Une crise militaire au Moyen-Orient, lorsque nous regardons la Turquie, l'Iran, la Syrie, l'Afghanistan, sans oublier la Palestine et Israël. Une crise militaire au Mali. Une crise humanitaire au Niger et dans bien des pays d'Afrique où des gens, et je l'entendais dans une prière tout à l'heure, disaient, il y en a qui sont morts hier, mais il y en a qui meurent aujourd'hui, par dizaines, par centaines, par milliers. Pasteur, vous n'êtes pas venu nous annoncer une bonne nouvelle ce matin? On se croirait aux informations télévisées. 25 minutes de mauvaises nouvelles et 5 minutes de bonnes nouvelles quand la météo est bonne. C'est pas toujours qu'elle est bonne, la météo, hein. Non, j'aimerais vous dire que les choses vont être inversées. Je vous ai fait quelques minutes de mauvaises nouvelles pour vous annoncer une bonne nouvelle. Parce que dans les Écritures, dans votre Bible, dans ma Bible, la réalité de la crise est décrite. Et elle a été vécue par des hommes, par des femmes, par le peuple d'Israël. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Partout, on parle de la crise dans la Bible. Et dans ces moments de crise, vous savez ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à expérimenter une grande révélation pour que tu ailles vers la conquête victorieuse de ta Jéricho? C'est le titre de mon message ce matin. Vers la conquête victorieuse de ta Jéricho. Est-ce que vous êtes prêts à lire avec moi? Alors lisons ensemble dans Josué, le livre de Josué au chapitre 5. Et nous commencerons avec les versets 13 et 14 de ce chapitre 5. Les versets vont aussi s'afficher à l'écran. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?»« Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. Amen. Dieu se révèle dans ce texte à Josué comme l'Éternel des armées. En hébreu, Jéhovah Tsebaoth. Vous pouvez le dire avec moi, Jéhovah Tsebaoth. Tsebaoth. L'Éternel des armées. Laissez-moi vous décrire le contexte de ce récit très rapidement. Vous savez, Josué est né et il a évolué dans une génération d'Israélites marquée par le compromis, l'amertume, la rébellion. Mais il a aussi vécu et grandi et reçu l'influence d'un modèle spirituel, d'un exemple remarquable en la personne de Moïse. Et à son tour, après la mort de Moïse, eh bien Josué est devenu le leader spirituel d'une nouvelle génération pour Israël et pour conduire eh bien, tout ce peuple dans le pays promis, vers Canaan. Parce que la précédente génération, elle, est morte dans le désert à cause de son incrédulité, à cause de sa désobéissance. Et Dieu va réserver une grande révélation de qui il est à cette nouvelle génération d'hommes et de femmes selon le cœur de Josué. C'est quoi une génération d'hommes et de femmes selon le cœur de Josué ? Ce sont des hommes et des femmes qui sont à la recherche de Dieu, qui ont un cœur qui a faim et soif de sa présence. Ce sont des hommes et des femmes qui sont déterminés à s'engager dans le combat et aussi à entrer dans le repos préparé par Dieu. Ce sont des hommes et des femmes résolus à aller de l'avant sans jamais regarder en arrière. Ce sont des hommes et des femmes qui sont décidés à résister aux compromis, aux souillures qui mènent à la corruption et à l'incrédulité. Ce sont des hommes et des femmes qui sont prêts à déclarer la guerre, à tout ce qui pouvait les empêcher d'entrer dans la plénitude des promesses de Dieu pour leur vie. Ce sont des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre les armes et à faire tout ce qui est nécessaire pour abattre les murailles qui les séparent d'une entière victoire. Waouh ! Quelle génération ! Quelle génération ! Et Josué s'est démarqué de ses semblables. Il a tracé une ligne qu'il s'interdisait de franchir dorénavant. Juste avant sa mort, Moïse a reçu une vision surnaturelle de Dieu dans Deutéronome 33. Il est dit que nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Quelle merveilleuse révélation que Moïse avait reçue d'un Dieu soutenant son peuple. Amen. À chaque moment où vous êtes d'accord, ça vous inspire, vous pouvez dire Amen. Ou Alléluia, ou gloire à Dieu aussi, c'est bien. Mais Josué a reçu une autre révélation. Il a reçu une révélation, une vision qui est une perception plus précise du Seigneur, comme nous l'avons lu au verset 13 et 14. Il voit ce cavalier dans le ciel, conduisant une armée d'êtres célestes qui attendent de recevoir les ordres d'un chef. À tous ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur, et je crois qu'il y en a dans cette salle ce matin. Il y en a trois, c'est bien. Je suis encouragé. À tous ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur ce matin, je dis aujourd'hui, cette révélation du chef de l'armée de l'Éternel s'adresse encore à nous. Il y a des armées d'êtres célestes qui chevauchent à travers les cieux et qui attendent de recevoir des ordres pour combattre en notre faveur. Il y a des forces célestes invisibles qui luttent pour nous contre les principautés et les puissances des ténèbres. Nous avons besoin de croire que ces armées célestes combattent pour nous, car jamais nous ne pourrons l'emporter par nos propres forces, quelles que soient nos forces humaines. Tout comme ces jeunes croyants déterminés qui accompagnaient Josué, les soldats du Christ du XXIe siècle, vous et moi, ne peuvent s'emparer des promesses de Dieu que s'ils vivent les quatre expériences que nous allons voir ensemble. C'est pourquoi je vous demande d'être attentif sur ces quatre expériences que nous allons lire, que nous allons découvrir au travers de ce récit dans Josué. Première expérience, nous devons traverser le Jourdain. Dites-le avec moi, nous devons traverser le Jourdain. Allez, je vous emmène tous en Israël, on y va. Vous allez me dire, pasteur, le Jourdain, c'est en Israël. Et là, vous nous dites, on doit tous traverser le Jourdain. Josué, chapitre 5, verset 1. Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'il l'ait traversé. Voici une étape décisive, significative pour le peuple d'Israël, la traversée du Jourdain. Tout cela est bien détaillé dans Josué 3, vous le relirez à la maison. Mais ce matin, nous nous souvenons ensemble qu'après 400 ans d'esclavage en Égypte, le peuple d'Israël a vécu un miracle extraordinaire par la traversée de la mer Rouge. Et là, à nouveau, ils ont vécu, si nous comprenons bien l'histoire, ils ont vécu 40 ans encore en tournée en rond dans le désert. Et à nouveau, ils vont vivre ensemble un miracle, la traversée du Jourdain. Qu'est-ce que ça représente pour nous ? Le Jourdain symbolise et représente une grande signification pour la vie de chaque chrétien aujourd'hui. Tout comme Israël, nous arrivons nous aussi au bord de notre propre Jourdain. Quand nous regardons en nous-mêmes pour nous évaluer, découvrir notre propre condition spirituelle. Êtes-vous fatigué de votre vie charnelle ? Êtes-vous fatigué de tourner en rond dans votre désert spirituel ? Est-ce que votre insatisfaction vous amène à crier au Seigneur ? Je veux être délivré de la puissance du péché et du matérialisme. Je veux un cœur pur et droit devant toi. Je refuse de me laisser aller, d'avoir un cœur tiède dans ces temps de la fin. Je veux être une lumière pour Jésus parmi cette génération. J'ai le désir de chercher ta face, Seigneur, et de recevoir ta force. Je veux aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Êtes-vous déterminé à suivre Jésus de cette façon ? Si oui, il vous faut traverser votre Jourdain. C'est-à-dire expérimenter la mort à ce monde, avec sa mentalité et ses valeurs de sensualité, d'orgueil, de volonté de tout contrôler, d'expérimenter la mort à ce monde avec son mode de pensée qui est centré sur l'homme, qui a pu être forgé, cette pensée, par bien sûr la philosophie, mais aussi peut-être par ton éducation, par ta culture. J'aimerais te dire ce matin à quelqu'un en particulier que la culture de l'évangile, des valeurs du royaume, transcende toutes les cultures. Et que ce n'est pas ta culture qui doit animer tes valeurs, mais la culture de l'Évangile. Expérimenter la mort à soi-même, traverser son Jourdain, c'est renoncer à soi. Abandonner l'idée de diriger sa vie sans le conseil divin. Comment traverser le Jourdain, pasteur ? Comment traverser mon Jourdain ? Lorsque tu vas déclarer la guerre. Lorsque tu vas t'engager à combattre les péchés les plus tenaces dans ta vie et que tu vas affirmer « Je ne vivrai plus esclave de cette convoitise. Je déclare ouvertement la guerre à cette forteresse dans ma vie. Je trace une ligne et je ne reviendrai pas en arrière. » Comme Josué l'a fait. Avec l'aide de la force du Très-Haut, je vivrai dans la justice, la pureté, la sainteté. Je vais faire partie des compagnons de Josué pour servir Dieu. Quand vous êtes ainsi déterminés, mes amis, vous terrifiez le cœur de Satan et de ses démons. Vous savez, pendant 40 ans, Israël, le peuple élu, le peuple choisi, le peuple qui invoquait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, faisait la risée de toutes les nations autour. Ils invoquaient leur Dieu, mais pendant 40 ans, ils n'ont pas eu de réponse. Ils sont restés en train de tourner en rond dans le désert. Et les autres peuples, riaient de ça. Ils n'avaient plus peur de ce Dieu-là, n'avaient plus peur de cette nation-là. Mais là, nous l'avons lu dès le verset 1, Israël traverse le Jourdain. Ils sont sur l'offensive. Ils n'errent plus dans le désert. Et là, vous savez, en 24 heures, l'attitude des habitants de Jéricho va changer. Parce qu'ils vivaient dans une ville bien très agréable. Certains la décrivent comme pratiquement un paradis sur terre, la ville des palmiers. Il faisait très bon vivre et les gens entraient librement, sortaient librement de la ville de Jéricho. Dressés bien sûr derrière ces hautes murailles sur lesquelles des spécialistes disent que sur les remparts, des chars avec leurs chevaux pouvaient courir. Mais là, quand ils apprennent que le Dieu qui avait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, qui avait ouvert la mer Rouge, à nouveau a ouvert le Jourdain pour le peuple d'Israël, ils ont peur d'un seul coup. Et Rahab va le dire, vous le lirez dans Josué 2:9, Rahab va le dire, nous avons peur de vous maintenant. Ça, c'est la première expérience. Nous devons traverser notre Jourdain. La deuxième expérience pour obtenir la victoire, nous devons accepter le couteau de la circoncision. Nous lisons ensemble du verset 2 au verset 7, mais on va lire que le verset 7 qui résume les détails des versets 2 à 7. Et Josué les circoncit. Il parle de toute son armée, de tous les hommes qui étaient avec lui. Car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Vous le savez, chaque Hébreu, chaque Juif, dès son plus jeune âge, et de l'âge de ses 8 jours à peu près, eh bien, est appelé à être circoncis. Et là, il y avait toute une génération d'hommes qui n'avaient pas été circoncis. Depuis qu'ils étaient sortis, bien sûr, d'Égypte et qu'ils avaient grandi dans le désert. Et là, Dieu demande à Josué de circoncire des hommes adultes, ses soldats. Vous savez, dit simplement, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, la circoncision est un acte extérieur qui est censé refléter ce qui se passe dans le cœur. Le livre du Deutéronome le dira, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Paul dira dans l'Épître aux Romains, et la circoncision c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La circoncision des soldats d'Israël était en rapport avec le combat spirituel. Ça signifiait la fin de toute confiance en la chair, c'est-à-dire notre propre nature, nos impulsions charnelles. Le Seigneur va ordonner à Josué de mettre à mort toute leur assurance, toute leur confiance en eux-mêmes. Ils devaient renoncer à toute dépendance de leur propre force humaine pour vaincre les forteresses qui les attendaient. Et nous voyons que pendant un laps de temps, eh bien, ces soldats sont sans force, incapables de combattre en soldats. Au verset 8, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Littéralement, jusqu'à ce qu'ils revivent. Dieu voulait les convaincre que ce n'était pas par leur combat et la victoire ne viendrait pas de leurs propres mains. Et Paul a écrit dans Philippiens, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu à notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Les circoncis, bien-aimés, c'est nous qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. C'est une alliance de cœur qui va bien au-delà d'une adhésion intellectuelle ou émotionnelle. C'est une alliance de cœur à cœur avec Dieu. Et l'apôtre Paul va tellement plus loin et il dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Il regardait son savoir. Il regardait son éducation, son intelligence, sa propre justice, son autosuffisance, sa confiance en lui-même comme de la boue. Il avait renoncé à tout cela. Est-ce que tu as renoncé à certaines choses de ta vie? C'est une leçon très douloureuse à apprendre, je suis d'accord avec vous. Accepter le couteau de la circoncision, c'est une chose très douloureuse. Mais si nous voulons aller vers la victoire, si nous voulons aller vers la victoire, le combat victorieux de notre Jéricho, nous n'avons pas le choix, nous devons traverser le Jourdain, nous devons accepter la circoncision de notre cœur. C'est accepter que nous sommes sans force pour abattre notre Jéricho personnel, que nous avons besoin d'une force invisible, surnaturelle, céleste, pour combattre les puissances mauvaises qui sont repliées dans la forteresse de notre cœur. Troisième expérience que nous devons vivre la Pâque. Alléluia. Nous lisons Josué chapitre 5, verset 10. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ? Nous devons traverser le Jourdain. Nous devons accepter le couteau de la circoncision. Nous devons vivre la Pâque. Vous savez, ils sont prêts, là, les soldats. Ils sont prêts pour la bataille. Ils sont prêts à écouter Dieu. Mais Josué va leur enseigner encore quelque chose. Josué chapitre 5, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Vous savez, Dieu a institué la Pâque dans Exode 12 comme une mesure de sécurité pour Israël, de protection contre la destruction. Elle devait être célébrée chaque année. Et après qu'ils aient fêté la Pâque, les Israélites étaient protégés par le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'ils pouvaient à présent entrer dans le combat spirituel en sachant que Dieu ne voyait plus leurs péchés. Bien-aimés, c'est la seule façon pour vous et moi aujourd'hui encore d'attaquer nos Jérichos, de déposer nos péchés sur l'agneau pascal, Jésus, qui un jour a été crucifié le jour de la Pâque, qui a versé son sang pour nous délivrer de la mort et du péché, et pour recevoir le plein pardon. Nous sommes appelés à venir à la croix, et pour d'autres aussi, à revenir à la croix régulièrement. Nous devons vivre la Pâque. Amen. Si nous ne le faisons pas, nous partons vaincus d'avance. Les guerriers de Josué ont traversé le Jourdain. Ils ont été circoncis. Ils sont protégés par le sang. Et maintenant, ils doivent vivre une quatrième expérience. Cette quatrième expérience, c'est qu'ils doivent faire face à la muraille fortifiée de Jéricho. Nous devons faire face à la muraille fortifiée de Jéricho. Quel est votre Jéricho personnel ? Peut-être qu'il y a bien des années que vous avez essayé de cohabiter avec votre forteresse personnelle, que vous errez dans votre désert spirituel. Le diable s'est moqué de vous et il a tourné en dérision votre marche avec Jésus-Christ. Mais si vous lui déclarez la guerre ce matin, si vous traversez votre Jourdain, si vous acceptez de dépendre de Dieu en reconnaissant l'œuvre accomplie à la croix par Jésus, alors l'ennemi c'est qu'il doit vous prendre au sérieux. Jacques, l'apôtre Jacques, dira « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Peut-être que vous vivez depuis des années dans l'esclavage d'un péché tenace qui s'appelle convoitise, qui s'appelle adultère, qui s'appelle peut-être pornographie, incrédulité, endurcissement, rébellion, crainte des hommes, j'ai plus peur de ce que les hommes vont penser que ce que Dieu va penser de ma vie. Langue mensongère, amertume. L'amertume, vous savez ce que c'est ça ? C'est un poison qu'on s'inocule en croyant qu'on va faire souffrir quelqu'un d'autre. Mais en fait, celui qui souffre le plus, c'est vous. L'amertume. Avec le temps, l'adversaire a utilisé cette séduction pour construire une forteresse dans ta vie, dans ton cœur. Les murailles sont devenues de plus en plus épaisses et résistantes. J'aimerais te dire, mon ami, humainement, impossible d'abattre de pareilles forteresses. Impossible. Vous avez besoin, nous avons besoin du secours des puissances divines invisibles. pour abattre ces murailles. Nous avons besoin du chef de l'armée de l'Éternel pour les anéantir surnaturellement. Peut-être que certains se disent, mais pasteur, il n'y a pas de forteresse dans ma vie. Je ne suis tenu par aucun péché tenace. J'aimerais vous dire, nous avons tous notre Jéricho. L'apôtre Jean dira, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Beaucoup de chrétiens reconnaissent leur Jéricho. Beaucoup de chrétiens que j'ai rencontrés, moi le premier, mais d'autres que j'ai rencontrés dans mon bureau, en soins pastoraux, j'ai eu le plaisir de rencontrer chez eux, reconnaissent leur Jéricho, mais refusent de lui déclarer la guerre. Quand on refuse de déclarer la guerre au péché qui nous harcèle, qu'on tente de cohabiter avec notre Jéricho, alors nous nous attirons la mort spirituelle et notre foi ne vaut plus rien. Vous est-il pas arrivé de constater que vous patiniez, que vous enlisiez, que vous n'aviez pas de réponse à vos prières? Mais où est ma foi? Où est mon Dieu? On se pose souvent et on demande, mais où es-tu Dieu? Tu m'as oublié. La vraie question c'est, où est ma foi? Où suis-je dans ma marche, dans ma relation avec lui? Dieu dit aujourd'hui à tous dans son église à Créteil très clairement, ta Jéricho doit tomber. Ta Jéricho doit tomber. Je demandais aux musiciens de venir. Nous allons terminer ensemble par un temps d'appel et de prière. Je sentais fortement dans mon cœur que nous sommes appelés, oui, à partager la parole de Dieu, à écouter le conseil de Dieu, mais nous sommes aussi appelés à combattre le bon combat. Et vous connaissez la suite de l'histoire, parce qu'elle est bien connue, l'histoire de la chute des murailles de Jéricho. Mais nous devons comprendre les étapes qui ont permis la victoire. Nous devons comprendre les uns et les autres que nous sommes tous appelés à traverser notre Jourdain, à accepter le couteau de la circoncision, à vivre la Pâque, à venir, à revenir à la croix, comme nous l'avons fait ce matin, mais d'une manière plus profonde encore dans nos cœurs, et à faire face à certaines murailles qui sont dans vos cœurs, que Dieu connaît, que vous connaissez. Et que l'Esprit peut pointer ce matin précisément, clairement dans votre cœur, dans votre esprit, et te dit cette muraille, cette Jéricho doit tomber. Si tu veux aller plus loin, si tu veux remporter des victoires, cette Jéricho doit tomber. Il y a bien des chrétiens qui sont dépassés par les événements quand il s'agit d'affronter leur forteresse. Ils voudraient combattre l'ennemi, mais ils perdent courage. Et il se résigne vite dans la défaite. J'aimerais te dire, il est temps de déclarer la guerre à ta Jéricho ce matin. La prophétie, elle est dans le même sens. Il est temps de vivre une victoire, une délivrance, une guérison. Alors à tous ceux et celles ce matin, alors que nous inclinons nos fronts, nous fermons nos yeux, pour nous retrouver face à face avec le Seigneur. J'aimerais inviter tous ceux et celles qui ce matin ont reçu ce message, ont reçu cette pensée et décident de déclarer la guerre à leur péché tenace. Qui décident et qui désirent voir leur Jéricho, leur muraille, ces forteresses qui se sont bâties, construites, élevées dans ton cœur et qui t'empêchent d'être pleinement épanoui dans ta marche, dans ta relation avec Dieu, de te lever à ta place. Là où tu es, à ta place, de te lever. Tu marqueras ainsi ta décision, ton désir de dire « Je veux que ma Jéricho tombe ce matin ». Je renonce à y parvenir par mes propres forces. J'ai essayé par ma volonté. J'ai essayé par mes propres stratégies. Par mes propres forces, mais je n'y suis pas arrivé. Ça a tenu 2-3 jours, une semaine au plus. Et je suis retombé dans mon travers. Je suis retombé dans ma difficulté. Je suis retombé dans mon péché. Mais comme Josué ce matin, lève les yeux et crois que le chef de l'armée de l'Éternel qui est Jésus s'approche de toi aujourd'hui avec ses paroles. Tu n'as pas à craindre cet ennemi. Ce combat n'est pas le tien, il est le mien. Viens te placer sous la puissance et l'efficacité de mon sang. Je te couvrirai de toute la protection divine. Continue, mon enfant, de marcher avec moi, de me parler. Je combattrai en ta faveur. J'ai toute une armée à ma disposition pour mener la guerre contre ta Jéricho. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance pour l'emporter sur ton ennemi. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux élever ta voix et proclamer une prière de foi? Proclamer une prière de foi. Ce matin, le Seigneur veut entendre ta voix. Parce que c'est cette prière de foi, mon ami, qui va renverser les oppositions. C'est cette prière de foi et cette décision que tu vas élever vers le Seigneur qui va repousser les ténèbres. C'est cette prière de foi, c'est le cri de ton cœur qui va faire tomber l'incrédulité et va libérer ton cœur et vivre une guérison, permettre une guérison. Alors que les chantres vont nous conduire dans un chant, je vous invite à élever votre voix, à oser prier, à oser dire quel est votre Jéricho. À voix basse, je vous ne parle pas d'un cri qui dépasse tous les autres. Je vous parle d'un cri qui vient du cœur, d'un cri profond, d'un désir profond de dire « Je trace une ligne, Seigneur, et je ne reviendrai plus en arrière. Ce matin, Seigneur, je trace une ligne comme Josué. Je veux être résolu, je veux être déterminé, Seigneur, à m'engager, Seigneur, à ne plus tomber dans cette convoitise, dans ce péché, à dépendre de toi, à ne plus chercher mes propres forces et mes propres intérêts, à penser et à vouloir guider ma vie sans te consulter, sans vouloir dépendre de toi. Ce matin, compte sur les forces du chef de l'armée de l'Éternel. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Alors que tu es debout, que tu ouvres ton cœur, que tu élèves ta voix, il combat pour toi, il te voit ce matin. Il voit ta vie, il voit ton cœur, il voit ton histoire, il voit ton passé, il voit ta souffrance, il voit ta difficulté, il combat en ta faveur ce matin. Tu n'as rien à craindre, il combat pour toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Libère les cœurs, Seigneur. Libère les cœurs, Seigneur, ce matin. Par l'action de ton esprit, libère les cœurs, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom. Alléluia. Est-ce que toute l'armée de l'Éternel, est-ce que tous les vaillants soldats qui sont ici peuvent élever leur voix, s'il vous plaît, pour tous ceux et celles qui sont debout? Ils ont fait 7 fois, pendant 7 jours, ils ont fait 7 fois le tour des murailles de Jéricho. Il y a des problèmes, des difficultés profondément ancrées dans les cœurs qui nous tomberont grâce à la prière collective, grâce au soutien des uns et des autres, grâce aux chants, grâce aux sacrificateurs que nous sommes et qui allons oser élever notre voix pour dire « Libère ma sœur, guéris mon frère ». Ce matin, ensemble, nous pouvons nous adresser à toi, Seigneur. Ensemble, nous pouvons sonner des trompettes de nos prières qui s'élèvent vers toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours éternel. Viens par ton esprit. Viens par ton esprit vaincre, Seigneur, les forteresses et faire tomber les murailles et les Jéricho qui sont en nous. Il n'y a que toi qui peux accomplir, Seigneur, ce miracle dans nos vies. Viens, viens, Saint-Esprit. Alléluia.
Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Ensemble.
Alléluia.
Le Dieu de victoire habite en moi.
Chante-le de tout ton cœur ce matin.
Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais n'est pas la foi, le Dieu de victoire habite en moi.
Je chanterai.
Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi.
Ce matin,
je chanterai
et danserai, car le combat est celui du Seigneur.
Car le combat est celui du Seigneur.
La victoire est assurée.
La victoire est assurée.
Car notre Dieu est vainqueur.
Car notre
Alléluia.
Dieu est vainqueur. Que Dieu de victoire habite en moi.
Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut donner une bonne main de victoire, un cri de victoire?